Je reviens à ma première slide pour en tirer un certain nombre d'applications. Donc les conclusions que je tire de ce modèle sont donc très simples, je les résume ici. Premièrement, les crises autoréalisatrices reflètent, si on suit le raisonnement que je viens de vous proposer, toujours l'inefficience anticipée de leur résolution. C'est parce que je pense que les crises seront mal réglées que le jugement des marchés peut affecter de fait la valeur de marché en quelque sorte d'un actif et ici la solvabilité d'un État. Donc très important de réfléchir à une résolution ordonnée des crises. C'est toute la discussion qu'il y avait pu avoir sur avoir une cour de faillite internationale. Il y avait eu toutes sortes de débats autour de cette question. Elles trouvent leur place dans ce premier bullet. Deuxièmement, une crise autoréalisatrice est le résultat d'une spirale très simple dans laquelle un pays devient insolvable parce que la charge des intérêts qu'il doit payer, alors la charge des intérêts, si j'appelle I le taux d'intérêt courant, D sur Q, le rapport dette sur PIB, en pourcentage du PIB, la charge des intérêts, c'est I fois D sur Q. Eh bien, très simplement, le risque autorisateur se produit lorsque la prime de risque, quelle qu'elle soit, P, qui s'ajoute au taux d'intérêt sans risque, fait passer le service de la dette de I fois D sur Q à I plus P fois D sur Q, auto-réalisant le risque de panique. Et on voit ici très simplement, et le raisonnement théorique que j'ai fait donne le substrat pour réfléchir à ça, on voit que forcément il y a toujours un niveau de dette D sur PIB élevé à partir duquel le risque autoréalisateur devient possible. Prenons l'exemple du Japon aujourd'hui. Le Japon a une dette sur PIB supérieure à 200%. Aucun problème parce que le taux d'intérêt est nul. Bon, donc 0 fois 200%, ça fait 0. Si demain une agence de notation se met à dégrader le Japon, le risque autorisateur devient immédiat. Il suffit qu'on lui demande une prime de risque de 500 points de base, on a vu, c'était le point médian dans la chronique grecque, pour que le Japon doive payer en charge additionnelle 500 points de base fois 200, c'est-à-dire 10 points de PIB, du jour au lendemain. Bon, on voit bien qu'il y a un seuil à partir duquel ça devient autoréalisateur. Voilà. Donc tout pays qui a un niveau de dette élevé est en réalité soumis à un risque autoréalisateur. Et troisième boulette, lorsqu'ils sont soumis à ce risque, il y a deux attitudes possibles. C'est pas très malin de le dire comme ça. Ils peuvent laisser filer. C'est le risque pinglossien. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, de toute façon, maintenant, je peux continuer de m'endetter puisque la probabilité de défaut est tellement importante que c'est vraiment dommage de se priver. Et puis, au contraire, ils peuvent adopter l'effet anti-pinglossien signalé par Colecchio, c'est-à-dire ils sont pris par surprise par un risque qu'ils n'avaient pas anticipé et ils veulent revenir en deçà de la zone de danger, mais il leur faut du temps, évidemment. Alors, voilà le cadre à l'intérieur duquel je vais maintenant déployer un certain nombre de conclusions, de leçons pour l'Europe, puisque c'était l'exercice de départ. Alors, le premier point, c'est quelques réflexions sur les agences de notation. Est-ce qu'elles sont les agents de ce risque autoréalisateur? C'est-à-dire que quand elles commencent à dégrader un pays, elles font changer la perception qu'on a de ce pays et déplacent en quelque sorte dans l'espace des représentations l'anticipation de l'équilibre où ce pays va se situer. Donc un pays très sain, je reprends l'exemple du Japon, brutalement dégradé parce qu'un alcoolique n'a pas tout bien compris, et tout d'un coup, ce risque devient autoréalisateur, puisqu'on se rend compte qu'avec ces niveaux de dette, les primes de risque qui sont déclenchées par cette modification du jugement sur le Japon deviennent autoréalisateurs. Donc c'est très important de comprendre, puisque c'était le point de départ, et encore une fois, je pense que c'est fondamentalement par crainte d'une dégradation de leurs notes par les agences de notation que les pays de la zone euro, hors la Grèce elle-même, sont engagés aujourd'hui dans une politique de rigueur. Quel est leur rôle? Comment fonctionnent ces agences de notation? Alors, il y a deux théories dans la littérature, qui est d'ailleurs assez maigre sur ce sujet, qui sont totalement opposées l'une à l'autre. Il y a un premier groupe d'auteurs, ils sont là, qui disent que les agences de notation fonctionnent de façon procyclique. C'est-à-dire que quand ça va bien, tout va très bien, Madame la Marquise. Exemple est subprime, tout va bien, on s'en fiche, ça va. Et puis, à l'inverse, quand tout va très mal. Et donc, elles amplifient, en quelque sorte, le jugement des marchés. Donc, là, pour le coup, elles auraient un rôle autorisateur. Ce ne serait pas forcément elles qui en seraient à l'origine, mais vient un moment où elles amplifient le jugement et donc elles précipitent, en quelque sorte, l'avènement de la crise. Et puis, il y a d'autres articles qui disent exactement le contraire. Elles sont neutres, elles sont en retard, elles sont beaucoup trop passives, en réalité, par rapport aux informations. Et donc, d'une certaine façon, elles joueraient un rôle plutôt plutôt de stabilisateur des anticipations, parce qu'il lui faut du temps, il y a du lag avant qu'elles incorporent toute l'information, donc plutôt un rôle inverse de celui procyclique. En fait, il y a autant de théories que de cas. Je vous ai sélectionné deux ou trois exemples qui montrent que ça dépend vraiment des circonstances. Le premier exemple où on peut dire qu'elle joue un rôle autoréalisateur, c'est justement le cas où... C'est justement le cas où on peut dire que le pays était le plus sensible à ce risque d'équilibre multiple. C'est le cas de l'Uruguay en 2002. Pourquoi l'Uruguay en 2002 ? Parce que l'Argentine vient de faire faillite et il y a un risque de contagion à l'Uruguay, alors même que l'Uruguay n'est absolument pas concerné par la crise argentine. Donc là, on voit que le jugement des marchés, c'est la question des marchés, c'est est-ce que l'Uruguay sera ou pas comme l'Argentine ? Bah, du moment où les agences de notation dégradent l'Uruguay, vous voyez la ligne rouge, c'est le moment où il est dégradé par Standard & Poor's, vous voyez le spread explose. C'est-à-dire qu'on voit ici un cas, il me semble très clair, très simple, où les agences de notation produisent un équilibre autorisateur, c'est-à-dire avant tout va bien, et du jour où elles décident de dégrader l'Uruguay, leur opinion change la perception du risque uruguayen. Ce sont des cas rares en réalité, mais très parlants. Rares par rapport à tous les autres cas de figure. Je vais venir dans un instant. Il y a d'autres cas moins convaincants. L'autre cas plus ambigu, c'est le Brésil. Donc le Brésil, après le défaut russe, le Brésil a été menacé parce qu'on s'est dit à l'époque, si le Fonds monétaire international ne sauve pas la Russie, il ne sauvera pas le Brésil. On voit que les spreads ont augmenté et les agences de notation, regardez celui du haut, c'est Standard & Poor's, suivent un peu. Et quand la situation se détend, ils ne reviennent pas à la baisse. Moody's est en retard, mais pareil, il y a une espèce de cliquet à la hausse, pas à la baisse. C'est un cas ambigu, ça. On peut dire, voilà, elles suivent avec du retard et en tout cas, elles ne suivent pas l'information, mais ça voit apparaître, et je vais revenir, une espèce d'asymétrie entre les hausses et les baisses. Ça, c'est le cas grec lui-même. Donc là, les notations dans l'axe horizontal, c'est les notations elles-mêmes qui sont discrétisées, et l'axe vertical, c'est les spreads. La ligne rouge, c'est la relation entre spread et notation en juillet 2008. La ligne bleue, c'est la relation entre spread et notation en juillet 2010. Première observation, la courbe a monté. Donc, ce n'est pas juste les agences de notation qui font les marchés. Les marchés ont augmenté après cette crise tout seul. Vous voyez que la Grèce, elle est à l'abscisse 6 en rouge, était, au fond, bien traitée par les marchés relativement à sa notation avant. Et c'est le bleu tout en haut, très mal traitée par les marchés en juillet 2010, même relativement à sa notation. Donc, ce n'est pas que les agences de notation. On voit que les marchés ont véritablement dévissé, paniqué, y compris par rapport au jugement des agences de notation. Donc, ça atténue, hein, c'est plutôt du côté, les agences de notation n'ont pas toute la responsabilité du monde. Mais c'est plutôt ici dans le sens anti-Uruguay. Elles sont plutôt du côté d'apaiser, entre guillemets. Alors, comment sortir de ce jugement ? Tantôt c'est sur ci, tantôt c'est cela. Donc, j'ai une jeune fille qui vient de faire un mémoire de DEA sur ce sujet, Anouka Ristiniemi. Très intéressant, dans lequel elle étudie ça en détail. Alors, elle a fait plusieurs choses, mais premièrement, et de manière, je crois, fondamentale, elle regarde si les agences de notation ont un pouvoir prédictif sur les crises 2 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois avant les crises. Elle montre que le pouvoir prédictif des agences de notation sur les crises qu'elles sont censées noter et anticiper est nul 2 ans avant la crise. Nul dans l'absolu et a fortiori nul relativement aux vrais bons prédicteurs de crise que sont le service de la dette, le PIB et l'index de la Banque mondiale, qui est un index qu'on peut dire de gouvernance, mais qui ne réagit pas du tout au cycle macroéconomique. Elle ne commence à avoir un pouvoir de prédiction que 6 mois à peu près, 3 à 6 mois avant la crise. Donc, c'est-à-dire on est vraiment dans la crise quand elle commence à pouvoir anticiper, c'est-à-dire suivre les ratings des agences de notation, où il peut avoir un pouvoir de prédiction, mais très court sur l'évolution de la crise. Elle regarde aussi l'influence des agences de notation sur les spreads. Et là, je crois que le résultat le plus important est le suivant. C'est que les cas où les agences de notation semblent avoir un rôle sur les spreads, ce sont les cas où elles dégradent les pays. Jamais quand elles les augmentent et les améliorent. Alors regardons ce que ça veut dire. Ici, on a pris en moyenne tous les cas de figure où un pays est passé à watch négatif, c'est-à-dire un pays dans lequel il y a une information d'ordre négatif sur ce pays. On passe brutalement à « tiens, ce pays, ça va pas très bien ». Rouge, c'est le moment où l'information est faite. Et la ligne, c'est le spread. Vous voyez que juste avant, c'est 10 jours ou 10 jours avant et 10 jours après. Juste avant, à moins 5 et à plus 5, il y a un gros gap qui se produit de 40%. Hein, 100, c'est une base 100, ce n'est pas 100 points de spread. Hein. Il y a un gros gap de 40% d'augmentation du spread qui se produit autour du changement de notation. avant, après, difficile de démêler la causalité, mais très clairement ici, on voit que quand un pays est dégradé, ça s'associe à un moment très délicat. En revanche, lorsqu'on regarde Positive Outlook, c'est-à-dire la même chose dans l'autre sens, il ne se passe rien. Alors c'est vraiment un bruit tout autour. C'est-à-dire le moment où une agence de notation décide de mettre Positive Outlook, il ne se passe rien avant, donc même par anticipation. C'est quand même souvent anticipé à quelques jours à l'avance, le moment où le pays va être dégradé. Mais ni avant ni après, il ne se passe rien. Comment comprendre cette asymétrie? Pourquoi quand on dégrade, c'est très important, et quand on remonte, ça ne change rien? A priori, à la marge, ça devrait être équivalent. L'interprétation qui est proposée par cette jeune fille, qui me paraît tout à fait convaincante, en fait c'était notre intuition de départ, il y a beaucoup d'autres choses dans son mémoire qui, je crois, le confirment, c'est tout simplement que les agences de notation jouent, non pas par leur pouvoir prédictif des crises, on lirait les agences de notation pour savoir ce qui va se passer, non, parce qu'elles font très très mal ce job-là, mais les agences de notation ont un rôle considérable du fait de leur rôle institutionnel, celui-là même par lequel j'ai commencé à décrire la situation grecque. Elles ont un pouvoir institutionnel parce que lorsqu'elles dégradent un pays et lorsque ce pays passe d'un certain seuil à un autre, eh bien elles font mécaniquement, par la loi, par leur pouvoir réglementaire, elles font perdre à ce pays une classe d'investisseurs. Lorsqu'un pays n'est plus triple A, par exemple, les banques centrales ne peuvent plus acheter en général les actifs de ce pays. Lorsqu'il passe d'investment grade à junk bond, il y a toute une classe d'investisseurs, les fonds de pension, etc., qui ne peuvent plus détenir cet actif-là. Et on a vu pour la BCE elle-même que le vrai moment où la panique a commencé à gonfler, c'est lorsque les agences de notation ont dégradé en dessous de A- et où on s'est posé la question de savoir si les effets grecs redeviendraient refinançables. Pourquoi, quand on remonte, ça ne produit pas d'effet symétrique? L'explication est assez simple. La base institutionnelle a beaucoup d'hystérèse. Vous avez des départements qui analysent un pays, puis à un moment donné, le pays n'est plus dans votre radar, vous fermez les analystes même qui surveillent ce pays, et il faut du temps avant qu'un pays bien noté retrouve sa base institutionnelle. Et moi, il me semble que c'est vraiment le cœur du problème grec aujourd'hui, dans toute sa force, qui est révélé par cette analyse. La Grèce, qui était considérée comme aussi bon du point de vue institutionnel que les autres pays de la zone euro, enfin en tout cas pour une très large classe d'investisseurs, a perdu aujourd'hui totalement la base d'investisseurs qui la soutenait. Et là, l'ambiguïté de la zone euro joue un rôle très important et la comparaison que je faisais tout à l'heure avec le Japon redevient très importante. Contrairement au Japon, qui a une base institutionnelle, on va dire très simple, qui est la masse de ses déposants, qui font que, de toute façon, le Japon ne va pas perdre la base de ses déposants, ce qui explique que le taux d'intérêt reste très faible et qu'il n'y a pas de risque qu'il soit brutalement dégradé. Dans le cas de la Grèce, on est dans la zone euro, les déposants, ils ont leurs banques détiennent toutes sortes d'actifs. La part des investisseurs extérieurs qui détiennent de la dette grecque est très importante, c'est supérieur à 50%. On est dans une union monétaire où la base institutionnelle devient très sensible au rating et au jugement des agences de notation. Et au fond, ce qu'on a découvert avec cette crise grecque, c'est que dans la zone euro, un État souverain n'avait plus une base institutionnelle d'investisseurs simple et captive comme tous les pays du monde, du fait de cette mobilité des capitaux qui était organisée sciemment et de manière, je crois, au fond, généreuse au départ, par cette zone euro. Donc, Voilà le problème qui est révélé par cette crise grecque. Alors, comment y faire face? Alors, il y a plusieurs propositions. Bon, l'une, ce serait pour la Grèce de sortir de la zone euro, mais je ne crois pas que ce soit le sujet. En tout cas, réfléchissons à hauteur de la zone euro aujourd'hui en généralité pour essayer de prendre la mesure de ce problème. La première, ce serait, si on prend au sérieux ce rôle, on va dire, endogène des agences de notation et du risque qu'il fait courir de faire s'évaporer brutalement la base d'investisseurs susceptibles de racheter cette dette, eh bien, on peut tout à fait envisager une quatrième agence de notation, une agence de notation européenne, c'est d'ailleurs une proposition qui avait été faite par le ministre des Finances allemand en octobre 2008, qui, a priori, affaiblirait, bon, pour y aller très, très prudemment, le monopole réglementaire actuel des agences de notation privées. Donc cette agence de notation, qu'est-ce qu'elle ferait de mieux ou de plus que les autres agences? D'abord, fondamentalement, si on croit en ce risque d'équilibre multiple, elle pourrait avoir pour mission de juger un pays sur la base de ses seuls fondamentaux. Et non pas, comme le font, et là pour le coup c'est à leur décharge, de manière raisonnable, les agences de notation aujourd'hui, de juger à la fois les fondamentaux du pays et la capacité éventuelle de ces pays de se refinancer sur les marchés. Lorsqu'un pays perd la confiance des marchés financiers, même si a priori ces fondamentaux sont bons, les agences de notation doivent dégrader ce pays, puisque leur rôle, c'est d'anticiper les risques de défaut. Donc, elles sont les instruments du risque autorisateur, pour le coup, par métier. S'il y a un risque, il faut qu'elles le notent. On peut imaginer une tâche nouvelle qui serait de ne noter que les fondamentaux et pas le risque de marché. Alors, quelle serait la signification de noter les fondamentaux, pas les risques de marché? Cette agence de notation, elle peut servir de colonne vertébrale aux politiques publiques, et notamment les politiques de refinancement de la BCE. C'est-à-dire, si l'agence de notation européenne dit « ce pays est à moins », la BCE dit « moi, je vous suis et je le refinance ». À ce moment-là, le risque autorisateur de perdre d'accès au marché parce qu'on craindrait, par exemple, que le refinancement à la BCE soit rendu impossible, ce chaînon du raisonnement est brisé par cette agence de notation européenne. Donc, ici, on a un premier défi, évidemment, je ne me fais pas d'illusions, très très compliqué à mettre en place, puisqu'il faudrait que cette agence de notation soit indépendante comme la Banque centrale, ça pourrait être même une agence de la Banque centrale qui produit son propre rating, pourquoi pas, enfin on peut imaginer tous les aménagements possibles à cette proposition, mais comme le disait d'ailleurs un des analystes, on a trois jeunes gens à Londres qui notent la Grèce et qui en savent beaucoup moins sur la Grèce que tous les analystes réunis du Fonds monétaire et de la Banque centrale européenne, pourquoi ne pas produire avec ces analystes une notation. Alors, en plus, évidemment, ça permettrait de servir de levier éventuellement politique à une coopération entre les créditeurs et les débiteurs. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Là, je reprends une idée qu'on avait développée il y a plusieurs années dans un rapport du CAE avec Richard Portes, à propos des pays émergents à l'époque et au moment où le débat sur des cours de faillite internationale faisait rage. Notre idée, c'était une idée d'un prêteur en premier ressort. Ce prêteur en premier ressort, quel serait son rôle? Ça reprend l'intuition de Cole et Kyo dont j'ai parlé à propos des zones de danger. Un pays qui est frappé par un risque autorisateur, c'est-à-dire tout d'un coup il perd la confiance des marchés, tout d'un coup il y a le risque que les spreads augmentent et que donc du coup ces spreads augmentent le poids de la dette face à un phénomène vicieux où le poids de la dette devient de plus en plus considérable, peut vouloir dans certains cas, et je crois que c'est le cas de la Grèce aujourd'hui, sortir de cette zone de danger et mener un programme d'ajustement. Ce programme d'ajustement, il aboutira si la course est gagnée entre, un, le pays qui veut mener ce programme d'ajustement, deux, les spreads qui doivent baisser assez vite pour que l'effet boule de neige n'amplifie pas les problèmes du pays. Donc il y a vraiment deux facteurs de sens contraire qui jouent et c'est assez difficile de dire lequel l'emportera. D'ailleurs, dans le modèle théorique, sortir de la zone de danger se fait jamais avec probabilité 100%. Vous pouvez être rattrapé par la crise malgré vos efforts pour en sortir. La proposition qu'on avait avec Portes, c'était de dire, à l'époque ça s'adressait au Fonds monétaire international, mais je pense que ça peut s'adresser aujourd'hui aux autorités européennes, un pays qui veut sortir de la zone de danger, c'est-à-dire qui lève la main et qui dit « je vais mener un programme d'ajustement, le voici, pour sortir de la zone de risque dans les 3-4 prochaines années », eh bien, devrait pouvoir bénéficier d'un financement, aussi longtemps qu'il met en œuvre le programme qu'il a annoncé, à des taux sans risque, ou à des taux peu chers, pour éviter l'effet, pour neutraliser ce qui met en péril dans le modèle les probabilités de succès de ce processus d'ajustement, à savoir l'effet boule de neige. Alors, évidemment, il y a une prise de risque de la part des autorités qui font ça, mais ça peut faire partir justement d'une mutualisation des risques acceptée à un certain niveau par la communauté internationale. Et le but, alors je le reformule maintenant dans le cadre de la zone euro, le but devrait être de faire une zone de fluctuation pour les spreads comme on en avait pensé à l'origine pour les taux de change. Il faudrait qu'à l'intérieur de la zone euro, il y ait des dispositifs qui disent il y aura pour les spreads payés, les spreads, donc les écarts de taux qui sont payés par les États souverains, une bande de fluctuation jusqu'à 250 points de base, par exemple. Avec Portes, on était entre 300 et 400, mais c'était pour les pays émergents dans son ensemble. Et puis, dès que les spreads sortent de ce couloir, les pays peuvent se tourner vers ce prêteur en premier ressort et dire « bon, les spreads sortent, je vais mener un programme d'ajustement sur 3 ou 4 ans, faites-moi des financements à 250 points de base, par exemple, au-dessus du Bund allemand, le temps que je revienne à l'équilibre ». Ça aurait évidemment un rôle très important pour fixer les anticipations des marchés et revenir à un rééquilibre stable. Qui pourrait être ce fonds de stabilisation, ce prêteur en premier ressort, par exemple, le FSF, qui vient d'être créé, le Fonds de stabilité financière, qui a été créé ce fameux 9 mai, qui a créé l'euphorie, puis la déception, ce fonds de 750 milliards, et qui pourrait donc être le guichet vers lequel des pays qui veulent s'engager sur un programme qui pourrait être lui-même expertisé par la Commission, enfin qui devrait naturellement être expertisé par la Commission, eh bien pourraient bénéficier de ces financements le temps de sortir de cette zone de danger. Évidemment, ce qui est très important, c'est que ce soit rapide, que ça puisse se faire bien, et que les taux d'intérêt ne soient pas élevés. Parce que si le rôle de ce fonds est de faire des prêts à des conditions de marché comme il a été dit de manière, je crois, tout à fait ridicule par les autorités allemandes à un certain moment, ça ne sert à rien. Le but, justement, c'est de neutraliser l'effet boule de neige et de sortir de la zone de danger. Donc il faut là, pour le coup, lever, bien entendu, cette hypothèque sur les taux d'intérêt. Les taux grecs, d'ailleurs, sont assez élevés. C'est 5% pour les trois premières années et 6% ensuite. 5% sur les trois premières années, ça veut pratiquement dire un spread de 400 points de base, parce que le refinancement allemand sur 3 ans, c'est 100 points de base. Donc on est sur des spreads, en réalité, très élevés. Il faut clarifier tout ça de manière très urgente. Bon, j'ai fini, j'ai un peu dépassé. Les autres enjeux, c'est pour la politique monétaire. Évidemment, j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais au moins à ce niveau-là, il faut que tout ça soit clairement articulé à une politique de refinancement des effets par la Banque Centrale Européenne qui donnerait de la crédibilité à l'ensemble. À minima, le Fonds de stabilité financière peut émettre des actifs qui sont refinançables, on va dire, déjurés par la Banque Centrale Européenne. C'est à peu près ce qui est prévu aujourd'hui. Donc on n'est pas très loin d'un accord institutionnel qui peut tirer toutes les leçons positives de cette crise grecque et certainement pas considérer que le seul recours à une crise de marché, c'est d'y répondre dans l'urgence et sans soutien des autres États européens. Voilà, je vous remercie.